RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur votre radio chrétienne pour cette hebdo-région des Pays de la Loire. Nous allons commencer dans quelques instants avec l'actu de la semaine. Depuis le 20 janvier, les futurs bacheliers peuvent commencer à exprimer leurs vœux quant aux formations qu'ils veulent suivre dans l'enseignement supérieur l'année prochaine. Et nous verrons qu'une injustice demeure depuis quelques années dans les filières dites sous tension, c'est-à-dire trop demandées par les étudiants. Alors afin de faire un tri, pourtant interdit, le système APB, le système admission post-bac, réalise un tirage au sort, un véritable scandale pour Bruno Maliolo, auteur spécialiste du système APB. Ensuite, direction la Sarthe pour y retrouver Aubery Métro de RCF Le Mans qui nous fera rencontrer la responsable du colloque régional sur les violences faites aux femmes en milieu rural. Ensuite, Bastien Lallier de RCF Anjou nous présentera une initiative, celle d'un jeune homme de 20 ans qui est parti depuis 5 mois maintenant sillonner l'Europe à vélo afin de récolter des fonds pour une association. Il est passé la semaine dernière à Angers. La pause spirituelle, nous la ferons avec Samuel Pecot de Fidélité Mayenne qui nous fera rencontrer une sœur de la charité Notre-Dame d'Evron pour nous parler de sa vocation à l'occasion de la journée de la vie consacrée qui a eu lieu le 2 février dernier. Enfin, nous resterons en compagnie de Samuel Pecot puisqu'il inaugurera notre toute nouvelle rubrique de cette hebdo-région En marche vers les présidentielles. Un principe très simple, 3 questions à des personnalités de la région reconnues dans leur domaine d'intervention. Ce ne seront pas des élus mais des acteurs de la société civile. Avec eux, nous évoquerons de nombreux thèmes tels que la santé, la sécurité, l'immigration, l'agriculture et bien d'autres. Et nous commencerons aujourd'hui avec l'éducation. Voilà donc pour le sommaire de cette hebdo-région qui vous est présentée par Thomas Cochebray de RCF Vendée en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Depuis le 20 janvier dernier, les élèves de terminale des lycées français ont commencé à exprimer leurs vœux quant aux formations qu'ils souhaiteraient suivre l'année prochaine. Des vœux qu'ils pourront exprimer jusqu'au 20 mars sur le logiciel en ligne APB, qui veut dire admission post-bac, logiciel au fonctionnement opaque et incompréhensible pour certains. Bruno Maliolo, inspecteur d'académie honoraire, a participé à l'élaboration de ce logiciel. Il est spécialiste de l'orientation scolaire, auteur de nombreux livres sur le sujet. Et cet ancien inspecteur d'académie, réfute l'appellation d'usine à gaz, même s'il reconnaît que le système peut paraître compliqué. Toutefois, il dénonce une injustice qui existe depuis quelques années dans certaines filières qui ne font pas de sélection à l'entrée, qui sont trop demandées par les étudiants, comme STAPS, droit, psycho, etc. Le système APB réalise un tirage au sort. Un véritable scandale pour Bruno Maliolo.
On fait le tri alors que c'est du non sélectif. Mais comme on n'a pas le droit de faire le tri sur des épreuves de sélection, pas de concours, pas de lettre de motivation, pas de test de langue, pas de bac d'origine, on fait le tri sur des critères aléatoires, et c'est là qu'intervient le logiciel APB. Il y a 3 critères successifs qui ont été introduits dans l'algorithme. Le premier, c'est la stricte application de la règle de sectorisation pour ces filières non sélectives. Je dis bien, hein, pour les filières sélectives, vous demandez où vous voulez. Donc ça permet déjà d'éliminer une partie des candidats. Ensuite, comme il y a toujours trop de candidats par rapport au nombre de places, on applique une deuxième règle qui est très étonnante, qui est le fait d'avoir demandé cette filière en premier vœu. Or, il y a des familles qui ont des envies pour d'autres filières avant de demander une fac. Eh bien, elles ont intérêt à y renoncer. Regardez, si je demande une classe préparatoire en premier vœu, puis une première année de premier cycle santé, une PACES en deuxième vœu, et que la prépa me dit non, je n'aurai pas non plus l'autre puisque je ne l'aurais pas demandé en premier vœu. Donc je n'ai rien. C'est une situation étonnante. Donc on pousse les gens à demander ces filières universitaires en premier rang, même si ce n'est pas leur préférence. Ce qui est complètement antinomique de toute la démarche qui consiste à travailler sur ces préférences en amont qu'on demande aux élèves de développer, et aux profs principaux et aux conseillers d'orientation de mettre en œuvre. On a là quelque chose qui est très contradictoire. Si ça suffit, on ne va pas plus loin. Par exemple, l'année dernière, en droit dans votre académie de Nantes, ça a suffi, on est rentré dans les clous. Mais si ça ne suffit toujours pas, il y a un troisième et dernier critère qui est effarant, on tire au sort.
Pourquoi vous, Bruno Maliolo, spécialiste donc, de ce système APB, vous êtes contre ce tirage au sort?
Je suis même très scandalisé que ça puisse être mis en œuvre, pour une raison toute bête. Vous pouvez être un excellent élève scientifique avec un bilan scolaire, travaillé, vous avez fait de gros efforts, vous êtes arrivé à vous hisser au sommet d'une classe de terminale S et le tirage au sort vous écarte. Quand un autre glandouilleur qui a pu se traîner pendant des années, y compris dans des filières de bac qui n'ont plus rien à voir avec tout ça, peut être tiré au sort et y aller, je fais un pari, le premier ne reviendra jamais, le deuxième va se péter les plombs très vite en 2-3 jours, mais la place qu'il va libérer ne pourra pas être récupérée par l'autre qui entre-temps aura été nommé ailleurs. C'est un système effarant.
Et vous le disiez tout à l'heure, le tirage au sort c'est quelque chose qui est interdit par la loi française.
Je vous explique. D'abord il est en pratique. Mais il y a eu des familles pour attaquer l'État en tribunal administratif. Constat, sur le premier critère de tri, la sectorisation, elles ont perdu. C'est conforme au code de l'éducation, c'est-à-dire à la loi. Deuxième critère, le classement en premier vœu, pareil. Mais les tribunaux ont tous condamné l'État pour la pratique du tirage au sort considérée comme illégale. Donc on s'attendait à ce que l'État fasse quelque chose pour la campagne 2017 d'APV. Et notamment qu'il transforme en filière officiellement sélective ces filières en question. Ça aurait été clair.
Et pourquoi, selon vous, l'État n'a pas pris le problème ?
Idéologiquement, ça passe pas dans ce milieu-là. Nous vivons dans un pays où le mot sélection est un mot impropre, sale, considéré comme choquant, idéologiquement non recevable. Donc on a écarté toute idée de faire de la sélection à l'entrée de ces filières.
Bruno Maliolo, spécialiste de l'orientation scolaire, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le système APB pour les nuls aux éditions First et l'étudiant. Cette sélection par tirage au sort à l'entrée des facs, dénoncée depuis 4 ans, est synonyme pour lui d'un manque de courage politique du ministère de l'Éducation nationale, et qui, plutôt que de réformer des filières non sélectives en filières sélectives, travaille à la légalisation d'un système injuste du tirage au sort. En effet, un décret légalisant ce tirage au sort était en préparation jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation nationale le retire à la dernière minute, alors qu'il figurait initialement à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour Bruno Maliolo, cette pratique du tirage au sort est une nouvelle preuve du nivellement par le bas qui existe au sein de l'éducation nationale et qui perdure maintenant depuis 20 ans, y compris à cause de l'alternance politique. Nous continuons notre hebdo-région, direction maintenant la Sarthe pour la rencontre de la semaine.
L'hebdo-région, rencontre avec...
Une rencontre avec qui se déroule en Sarthe cette semaine. Aubery Métro, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette semaine a eu lieu au Mans un colloque régional sur les violences conjugales en milieu rural et vous avez rencontré l'une des organisatrices.
Maryse Berger est la vice-présidente de SOS Femmes 72. Cela fait plusieurs années que son association aide les victimes de violences conjugales. Alors si on prend les chiffres pour la Sarthe, les trois quarts des personnes qui poussent la porte de l'association vivent dans l'agglomération mancelle. Mais pour Maryse Berger, il ne faut pas minimiser le phénomène dans nos campagnes.
Elles sont plus isolées au niveau des transports. Même si les transports existent, il y a des cars, il y a des trains, il y a des voitures, mais en fait, elles sont sous surveillance plus ou moins de leurs conjoints et elles nous disent que bon, un kilométrage un peu trop élevé pour venir en ville, dépenses de car ou de train qu'elles ont faites, le fait qu'elles soient parties une après-midi ou une matinée, tout cela, elles doivent donner des raisons, elles doivent expliquer et pour elles, c'est difficile. Donc, on a des contacts téléphoniques quelquefois. On a un accueil, c'est-à-dire qu'on reste très longtemps au téléphone, mais parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas venir.
Plusieurs relais existent dans les campagnes pour dénoncer les cas de violence.
En plus des CCS et des associations, les maires des communes rurales ont un vrai rôle à jouer, selon Maryse Berger.
Un maire, une fois, d'une petite ville, est venu interpeller notre présidente en lui disant « Écoutez, je sais que vous présidez cette association. Et moi, voilà, j'ai reçu une dame qui était visiblement victime de violences conjugales, du moins elle m'en a parlé, et je ne savais pas quoi faire. » Donc ce monsieur nous a dit que ce serait intéressant que notre association forme, au moins sensibilise des élus aux violences conjugales. Ce que nous avons fait il y a 2 ans, je crois, et c'est intéressant parce que, par exemple, au colloque, nous avons invité l'ensemble des maires de la Sarthe.
Alors, plusieurs dispositifs existent pour venir en aide aux femmes battues.
Il y a par exemple le téléphone Grand Danger. Il est accordé par le procureur de la République après évaluation des dangers qu'encourt la femme victime de violences. Cela permet en une touche d'appeler à l'aide et ce dispositif a déjà sauvé plusieurs vies en Pays de la Loire selon les associations. L'objectif est aussi de doubler le nombre d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries pour que les victimes osent enfin aller porter plainte.
Et même si elles ne passent pas à l'acte, l'important c'est surtout l'écoute.
Maryse Berger participe à l'accueil des victimes. Elle les écoute pendant de longues heures, mais ce n'est pas toujours possible de les faire sortir de l'emprise de leur conjoint.
Je crois que le témoignage qui m'a vraiment le plus bouleversée, ils sont tous très poignants. C'est le témoignage d'une très jeune femme, parce que moi je ne suis plus jeune et je m'attendais quand même à ce que dans la nouvelle génération, qui est la génération de mes filles, eh bien cette problématique tende à disparaître. Pas du tout. Et là, c'était une très jeune femme qui subissait des violences terribles, qui elle-même se dénigrait. Et monsieur, d'ailleurs, a été emprisonné. Mais
Et elle est devenue quoi, cette jeune femme ?
Elle est venue physiquement à l'association avec son bébé dans les bras et elle n'avait rien d'autre. Donc, nous l'avons hébergée et puis elle est... Est-ce qu'elle est sortie des violences ? Est-ce qu'elle n'est pas retournée avec son conjoint ? Je ne sais pas, parce que au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'elle devienne. Mais je crois que c'est un des témoignages qui m'a le plus bouleversée. Ce qui est aussi assez bouleversant, c'est de voir des femmes retraitées, la plus âgée que nous ayons eue, avait 80 ans tout de même, hein, et qui, après 40, 50 ans de violences, franchissent le pas de la séparation.
Et chaque année, dans les Pays de la Loire, ce sont près de 3000 nouvelles femmes qui viennent chercher de l'aide auprès de ces associations.
C'était Aubery Métro de RCF Le Mans qui nous présentait donc ce sujet à propos d'un colloque régional consacré aux violences conjugales organisé au Mans. Merci beaucoup Aubery, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on poursuit cette hebdo-région, on file en Maine-et-Loire pour y découvrir maintenant l'initiative de la semaine.
L'hebdo-région, initiative.
Et on y retrouve Bastien Lallier de RCF Anjou. Bonjour Bastien.
Et bonjour Thomas, bonjour à tous.
Plus que l'initiative de la semaine, c'est plutôt l'histoire de la semaine que vous allez nous conter Bastien, celle d'un garçon de 22 ans qui a décidé de se lancer un défi un peu fou pour la bonne cause.
Oui, ce jeune homme, Thomas, c'est Quentin Varin. Depuis 5 mois maintenant, il sillonne l'Europe à vélo afin de récolter des fonds pour une association. Un parcours de 9000 km à raison de 80 par jour et une dizaine de pays traversés au total. Ses études de management terminées, Quentin Varin rêvait d'aventure avant de se lancer dans la vie active. Il a donc joint l'utile à l'agréable.
Je me suis vraiment sorti pour le coup de ma zone de confort parce que j'habite dans un petit village, je connaissais tout le monde, j'avais mon petit train-train... Comme beaucoup de personnes là, j'ai eu envie de voyager juste après mon BTS et je me suis dit il faut mettre du sens au voyage. Et c'est comme ça que c'est parti tout doucement, le vélo vraiment par rapport à l'environnement, le challenge sportif. Et il fallait donner du sens, donc aider une association, ça m'est venu assez rapidement à l'esprit. Et comment l'aider, donc c'était financièrement. Et j'ai commencé à démarcher l'association, donc je suis tombé sur Adépense, on s'est mis tout de suite d'accord. Donc très rapidement c'est l'association de défense d'études. Des personnes amputées, donc qui aident les personnes amputées à apprendre à le devenir, parce qu'on n'est pas tous amputés, bien entendu. Suite à un accident, généralement, il faut apprendre à retourner dans la vie active, à reprendre une activité sportive. Et ça m'a vraiment touché, parce que moi, je suis sportif, et je me suis dit, ça peut arriver à n'importe qui, surtout que j'aime faire aussi un peu la fête. Donc, malheureusement, un accident est vite arrivé aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une association qui peut concerner tout le monde, qui rassemble tout de suite. Et ça, je trouvais ça intéressant.
Et à 2 semaines de la fin de son périple et après avoir parcouru l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, l'Italie ou encore l'Espagne, le Français était de passage dans la région cette semaine, à Angers mardi, puis au Mans mercredi. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous l'avons rencontré. De la nourriture à l'hébergement, il s'est confié sur son expérience à travers quelques anecdotes croustillantes.
Je me suis basé sur une émission assez connue, c'est « J'irai dormir chez vous ». J'ai pas énormément d'argent non plus, donc il fallait trouver un côté pratique. Et justement, je voulais aussi aller un maximum vers les autres, faire des rencontres. Je me suis dit, si je vais chez les gens, essayer un peu au culot de dormir chez eux, ou au moins de bivouaquer généralement dans leur jardin. J'avais tout le temps le droit à un bon repas, une douche ou un café le matin. Et c'était super pour faire les rencontres. Et parfois, j'avais même le droit à un lit et... c'était exceptionnel.
Vous auriez une anecdote à nous partager ?
Alors, je me suis une fois perdu en forêt, par exemple. Là, j'en rigole, hein, mais j'étais pas très fier à ce moment-là. J'ai dû prendre la décision de camper en forêt. Donc,
c'était où ?
En Allemagne. Donc, c'est assez flippant. On entend beaucoup de bruit et là, mentalement, il faut vraiment travailler sur soi. Et après, il y en a une autre aussi à Giron, en Espagne. J'ai perdu ma carte bleue. J'ai dû vivre avec 2,74 € en 5 jours. Donc là, le vivre simplement, il prend tout son sens à ce moment-là. J'étais obligé de compter aussi sur la générosité des autres. Et les Espagnols, pour ça, c'était exceptionnel. Ils étaient très généreux.
Et malgré ces petits désagréments qui font partie du voyage, Quentin Varin sort grandi de cette expérience. Il conseille d'ailleurs à n'importe quel jeune de se lancer dans ce genre de pari.
Je pense que dans la vie, il faut être un peu audacieux. Alors, pas prétentieux, mais audacieux. Ça veut dire oser dans la vie, ne pas avoir peur de se lancer. Quand j'ai dit à mon entourage que je partais faire un tour d'Europe à vélo, il y en a certains qui se sont dit, il est un peu fou, il pourrait continuer ses études ou même travailler déjà. Et ce qui était sympa, c'est que mon entourage m'a tout de suite suivi, a compris ma démarche. Et après, pour ça, j'ai quand même bien structuré mon voyage. Et je pense que tout ça, c'est très formateur. C'est pas encore terminé, mais j'ai déjà tout gagné, je pense, dans cette aventure. Déjà, la preuve, c'est qu'en plus, aujourd'hui, je passe à la radio. Donc c'est des petits trucs cool parce que j'avais jamais fait de radio avant mon voyage. J'étais jamais passé à la télé. Je sais que mon grand-père, pour lui, c'est une fierté de me voir et tout. Et je suis très content. Et c'est du donnant-donnant, en fait. J'ai l'impression d'avoir donné pour faire ce voyage, parce qu'en plus, voilà, j'ai de l'association. Mais je reçois tellement que je vois pas d'autre mot, quoi. C'est formateur de A à Z.
Et vous pouvez toujours encourager l'initiative de Quentin Varin par le biais d'un don sur le site internet europabike.fr.
Plus de 1 100 € ont déjà été récoltés pour Quentin Varin. Merci beaucoup Bastien de nous avoir présenté cette belle histoire de Quentin Varin qui fait son tour d'Europe à vélo. Cette fois-ci, nous quittons définitivement le Maine-et-Loire, direction maintenant la Mayenne pour y faire la pause spirituelle. Et nous y retrouvons Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce jeudi, c'était la Chandeleur, nous avons mangé des crêpes pour célébrer la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël, mais c'était aussi la journée de la vie consacrée. Et pour l'occasion, Samuel, vous étiez avec une sœur de votre département.
Oui Thomas, j'étais avec sœur Odile Lameau, qui est religieuse depuis 52 ans. C'est une sœur de la Charité Notre-Dame d'Evron. Et donc je dis effectivement, comme toutes les moniales et tous les moines du département qui peuvent se déplacer, elle était à Château-Gontier pour célébrer cette journée de la vie consacrée. Et elle en a profité pour nous rappeler ce que signifie cette journée.
Cette journée de la vie consacrée a été voulue par le pape Jean-Paul II en 1997 pour rendre grâce pour toutes ces personnes qui se sont engagées dans une vie donnée à Dieu et à Jésus. Le pape voulait aussi rappeler à tous les croyants que beaucoup de personnes s'engageaient dans cette vocation pour le service des frères, pour aimer Dieu, le service des frères. Il voulait aussi rappeler que l'Esprit est toujours à l'œuvre aujourd'hui.
Et on se souvient que 2015 avait été décrétée année de la vie consacrée par le pape François. On se souvient aussi que le pape François avait invité les chrétiens à aller vers les périphéries de l'Église. Et c'est un appel qui a été totalement entendu par sœur Odile Lameau. C'était presque une évidence pour elle qui a consacré ses 52 ans de vie religieuse aux enfants et aux jeunes. D'abord en tant qu'enseignante, puis après en tant qu'éducatrice qui s'est beaucoup impliquée dans l'action catholique des enfants et la jeunesse ouvrière chrétienne. Ce qui explique pourquoi elle a répondu il y a quelques semaines, c'était avant Noël, à l'appel du 115 qui recherchait en Mayenne des bénévoles pour l'accompagner dans l'accueil des sans-abri.
Oui, j'ai répondu à cet appel du 115 qui demandait des bénévoles pour être proche des personnes sans abri qui viennent le soir à partir de 18h. Donc notre rôle de bénévole, c'est d'accueillir ces personnes. Et l'expérience que j'ai rencontré des enfants et des jeunes adultes et des couples et des personnes jusqu'à l'âge de 60 ans environ. Et notre rôle est par un accueil, un sourire, un regard, un regard d'encouragement, de leur dire qu'ils sont importants. La réponse que j'ai faite à cet appel m'a rappelé une parole de la Bible, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et une autre parole, « Toute personne est une histoire sacrée. » Et la difficulté parfois, c'est que la langue nous barre un peu la route, mais peu à peu, nous échangeons quelques mots. Je me fais proche selon les besoins des enfants ou des jeunes ados, et par le jeu, nous pouvons échanger et passer un temps de bonheur ensemble.
C'était donc le témoignage de sœur Odile Lameau, sœur de la charité Notre-Dame d'Évron, pour illustrer de belle manière, je trouve, cette journée de la vie consacrée, qui, je le rappelle, a été célébrée dans le monde entier jeudi dernier.
Merci beaucoup Samuel de nous avoir relaté cette belle rencontre à l'occasion donc de ce 2 février, vous l'avez dit, journée de la vie consacrée. Samuel, je ne vous dis pas au revoir puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour notre toute nouvelle rubrique En marche vers les présidentielles.
En route vers les présidentielles.
Nous sommes à 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle et donc nous inaugurons cette semaine une nouvelle rubrique dans cette hebdo-région. Elle s'appelle En route vers les présidentielles et comme son nom l'indique, elle nous conduira jusqu'au dimanche 23 avril, date du premier tour. D'ici là, chaque semaine, nous recevrons des personnalités de la région reconnues dans leur domaine d'intervention. Ce ne seront pas des élus, mais des acteurs de la société civile. Nous évoquerons de nombreux thèmes tels que la santé, la sécurité, l'immigration, l'agriculture et bien d'autres. Nous commençons aujourd'hui avec l'éducation. En effet, le quinquennat qui se termine a été marqué par deux grandes réformes. Tout d'abord, la réforme des rythmes scolaires dans le primaire et ensuite la réforme du collège. Alors pour savoir ce qu'en a pensé notre expert de l'éducation, eh bien nous retrouvons Samuel Pecot de Fidélité Mayenne.
Rebonjour Thomas, et oui je suis effectivement avec Philippe Paré, le directeur de l'enseignement catholique en Mayenne, qui est aussi le président de l'URADEL Pays de la Loire, c'est-à-dire l'union des cinq directions de l'enseignement catholique régional. Philippe Paré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être le premier à vous prêter à cet exercice, des trois questions A. Je vais en effet vous poser maintenant en trois minutes trois questions et ce seront les mêmes questions qui seront posées à tous les invités que nous recevrons dans les semaines à venir. Tout d'abord, Philippe Paré, première question. Quels sont pour vous les enjeux de cette présidentielle pour l'éducation de nos jeunes?
Eh bien, les enjeux sont considérables. Je crois que le premier enjeu est un enjeu sociétal. Et je crois qu'effectivement l'élection présidentielle doit se saisir de ce sujet. Il s'agit de rétablir une vraie considération pour l'école. Faire de l'éducation un chantier ultra prioritaire pour aujourd'hui et pour demain. Donc on pourrait le résumer, me semble-t-il, en trois grands axes. Le premier, rétablir une immense confiance dans l'école au sens large, redonner un cadre à l'éducation, et puis libérer les énergies, libérer les carcans pour faire en sorte qu'il y ait une véritable audace éducative.
Alors deuxième question, quelles sont vos principales attentes vis-à-vis du prochain gouvernement?
Vous pensez bien qu'elles sont nombreuses. La première est primordiale, il s'agit de revaloriser le métier d'enseignant. C'est une urgence impérative, valoriser cette belle mission, l'élargir, en faire une mission d'enseignement, une mission d'éducation, une mission d'accompagnement. La revaloriser aussi en élevant le niveau de rémunération. Vous savez, les enseignants sont aujourd'hui recrutés au niveau Bac plus 5. Mmh. Je considère que ce sont des ingénieurs. Comment peut-on imaginer que ce métier est un simple métier d'exécution de programme? Il faut leur donner de l'autonomie, de la responsabilité, de l'innovation et la possibilité aussi d'être créatif. C'est la première attente. La deuxième attente, mais elle est liée à la première, c'est redonner précisément aux chefs d'établissement et aux établissements une véritable autonomie. Mmh. Revaloriser les projets d'établissement pour permettre précisément de quitter un aspect trop normatif des programmes et laisser aussi la place à l'expérimentation, donner plus de responsabilités. Les chefs d'établissement connaissent leur contexte, ils doivent avoir la possibilité précisément de faire des propositions plus souples que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui.
Alors dernière question, troisième et dernière question, et si vous-même vous étiez élu le 7 mai prochain, quelle serait votre première mesure en tant que président de la République française ?
La première mesure, ce serait peut-être, alors je me situe au sein de l'enseignement catholique, reconnaître ce qu'on appelle le besoin scolaire reconnu, c'est-à-dire accorder des moyens à l'enseignement catholique à la hauteur des demandes précisément de scolarisation des familles, pour que l'enseignement catholique puisse accueillir toutes les familles qui souhaitent le rejoindre. C'est la première mesure. Et puis la deuxième mesure, ce serait, comme je vous le disais tout à l'heure, de desserrer les taux, de desserrer les carcans pour libérer de l'énergie.
Merci Philippe Paré. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'enseignement catholique en Mayenne et le président de l'URADEL Pays de la Loire.
Merci à vous.
Merci beaucoup Samuel d'avoir inauguré cette rubrique En route vers la présidentielle. Nous serons la semaine prochaine en Sarthe et après l'éducation, eh bien, nous évoquerons la question du chômage. Voilà, un générique qui vous indique que c'est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin, en effet, de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à tous de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.